Chapitre 12. En pleine bataille. Shuttlecock s'était empressé de regagner l'hôtel royal et de regagner sa chambre. Tout de suite, il s'était emparé de l'appareil téléphonique et avait lancé à Météor : « C'est moi, ton patron. As-tu des nouveaux ?»«
Oui, et du grave. Maintenant que je sais que vous êtes rentré, je vous envoie cela par la voie ordinaire. »
« Bien, je te remercie, » fit simplement Shuttlecock, qui raccrocha le récepteur. « J'ai l'impression, » se dit le grand limier, « que les événements vont se précipiter et que Sir Jack Sorrett, trouvant sa vengeance insuffisante, prépare contre cette malheureuse comtesse de Préfailles quelque nouvelle infamie. Tout à l'heure, j'ai bien fait d'écouter cette voix intérieure qui me conseillait d'ordonner à cette malheureuse jeune femme de rester chez elle. Je constate une fois de plus que mes pressentiments ne me trompent jamais. Quelques instants après, on frappait à sa porte. C'était un veilleur de nuit qui apportait à Shuttlecock un pli cacheté. Dès que l'employé se fut retiré, Shuttlecock déchira l'enveloppe, ouvrit le papier plié en quatre qu'elle contenait et lut ce qui suit. D'après un coup de téléphone qu'a reçu ce soir Sir Jack Sorrett, j'ai cru comprendre que celui-ci méditait de faire enlever la comtesse du P. Si je n'ai pas pris de sténographie cette conversation, c'est que pendant ce temps-là, j'étais dérangé par le directeur de l'hôtel qui est venu à mon standard voir si tout marchait bien. Je ne serais pas autrement surpris que ce William Craig ne soupçonnât la véritable raison pour laquelle nous sommes ici. J'attends vos instructions. » Shuttlecock plaça la note de son secrétaire dans son portefeuille tout en songeant. « Eh bien, je ne m'étais pas trompé. Maintenant, il s'agit d'aviser au plus pressé, c'est-à-dire de mettre la comtesse de Préfailles à l'abri de toute attaque. Bon, cela est bon affaire. Maintenant, dois-je finir la nuit ici ou rentrer chez moi ?» Météor croit que William Crick nous a signalé à Jack Sorrett. Après tout, c'est fort possible. Météor est un garçon qui a beaucoup de flair. Et ce William Crick est une de ces fripouilles cosmopolites, telles qu'il m'en a déjà de les rencontrer si notoires. Conclusion, il n'y a qu'une chose à faire. C'est de filer très doucement et sans donner la veille à personne. Il reprit le téléphone, rappela Météor et lui dit « Tu vas immédiatement lâcher ton standard et rentrer de ton côté à la maison. Le premier arrivé attendra l'autre. » Une demi-heure après, tous deux se rencontrèrent en même temps devant la porte de la villa de Shuttlecock. Ils pénétrèrent dans la maison, gagnèrent le studio du détective et de là le laboratoire où ils commencèrent à se démaquiller. Ce fut alors seulement que Shuttlecock, qui avait observé jusqu'alors un silence que son collaborateur se fût bien gardé de troubler, fit, sur un ton très calme et rassuré, « Bon petit Météor, tu avais raison. Des choses très graves se sont passées pendant mon absence, non seulement à l'Hôtel Royal, mais encore sur d'autres points de Paris. Oh, je vois que votre expédition a donné des résultats, insinuait Météor.
Et des résultats excellents, accentuait le grand limier. Je vais d'ailleurs t'en faire part, afin que nous puissions, avant d'aller dormir quelques heures, nous partager la besogne que nous allons avoir à faire demain. »
Shuttlecock, avec la clarté et la précision qu'il apportait dans tous ses propos, fit à son secrétaire le récit de son aventure avec la charmante Mémène et de son entrevue avec la comtesse de Préfailles. Quand il eut terminé, Météor s'écria «
Patron, je sais que vous n'aimez pas beaucoup que l'on vous passe de la pommade, mais
Malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que plus ça va, plus vous devenez épatant.
Et toi, mon petit, répliqua le roi des détectives, plus je te vois à l'œuvre et plus j'apprécie tes services.
Un rayonnement d'allégresse illumina le visage de Météore.
Car Chantecoq était plutôt avare de compliments, et quand il s'adressait à quelqu'un, il s'était doublement mérité.
Bon, maintenant, reprenait le grand policier, parlons peu, mais parlons bien.
Car étant donné le travail qui nous attend, 5 heures de sommeil me paraissent indispensables.
Demain matin, camouflé en nègre, mais en nègre très chic, tu t'arrangeras de façon à te glisser dans le hall de l'hôtel royal. Tu guetteras l'arrivée d'une certaine baronne Merlou, qui demandera à parler à Jack Sorette. Si elle quitte l'hôtel avant que je sois venu te rejoindre, tu la suivras. Tu la pisteras également les 2 personnes avec lesquelles elle a rendez-vous, c'est-à-dire un soi-disant prince russe et une nommée Juliette, afin de leur remettre les chèques signés par Jack Sorette.
Bon, l'épaule signalement du prince, tirant de sa poche la photo que lui avait remise Madame de Préfailles, il l'attendit à son secrétaire en disant « Mais voici le portrait de la femme. Je te laisse afin que tu ne puisses pas te tromper. »
« Bien, patron, appuya Météore. Tout cela sera exécuté ainsi que vous me l'ordonnez. »
Je n'en doute pas un seul instant. Quant à moi, je serai camouflé en chauffeur de maison. Tu me reconnaîtras un signe que je te ferai, étant j'ai d'ailleurs contracté l'habitude, c'est-à-dire celui de me gratter le bout du nez. De cette façon-là, je suis sûr de ne pas nous manquer. À moins que je n'arrive après que la baronne Merloupe ne soit partie. En ce cas, tu me téléphoneras immédiatement, ici même, le résultat de la filature, et j'irai te rejoindre aussitôt à l'endroit que tu m'indiqueras.
Maintenant, mon petit, bonsoir, bonne nuit, et à demain matin.
À demain, patron, et surtout ne faites pas de mauvais rêves.
Moi, dit Chantecoq, je ne rêve jamais.
C'était vrai. Le roi des détectives non seulement était doué d'une capacité, d'une puissance de sommeil considérable, mais encore il possédait cette double faculté de pouvoir s'endormir et s'éveiller à volonté et à l'heure qu'il avait fixée lui-même. Il ignorait donc entièrement l'usage du réveil matin. Dès qu'il se fut étendu dans son lit, il ferma les paupières et, ainsi qu'il le disait, il se laissa doucement bercer par le dieu Morphée. À 6 heures du matin, il rouvrait les yeux, sautait à bas de son lit et s'en allait dans son cabinet de toilette et ainsi que chaque matin, il prenait un bain-douche suivi de quelques exercices de culture physique grâce auxquels il demeurait svelte et conservait à ses muscles toute leur robustesse et leur élasticité. Il se rasa, revêtit un pyjama et descendit dans la salle à manger, où, face à face avec Météore, il absorba un excellent chocolat. Puis, tous deux retournèrent dans le laboratoire, où ils se camouflèrent, le premier en chauffeur, et le second en nègre.
« De cette façon, dit Chantecoq, j'aurais pas besoin, mon cher Météore, de me gratter le nez pour me signaler à ton intention. » Car maintenant que tu m'as vu sous cette superbe livrée, j'espère bien que tu me reconnaîtras entre 1000.
Oh oui, patron, fit le secrétaire en regardant avec attention le roi des détectives, transformé véritablement méconnaissable. Et il ajouta,
alors peut-être à tout à l'heure et à coup sûr à bientôt.
Le limier s'enfuit, laissant Météore, qui n'avait pas tout à fait terminé son camouflage, retourna dans son studio, prit le téléphone et demanda le numéro de Madame de Préfailles. Celle-ci s'en vient tout de suite à l'appareil, et reconnaissant la voix de Chantecoq, elle lui dit « Vous avez du nouveau ?
Oui, répondit le détective. J'ai absolument besoin de vous voir immédiatement, si toutefois cela ne vous dérange pas trop. Michel affirmait, mais vous serez le bienvenu, au contraire. Je vous préviens que je suis habillé en chauffeur de grande maison, car je dois, en vous quittant, me livrer à une filature qui exige de ma part cette transformation. Aussi ne soyez pas surprise en me voyant. C'est entendu, dit la jeune femme. Chantecoq s'en fut tranquillement prendre sa Talbot, 6 cylindres, dans le garage, attenant à sa villa, et prenant le volant, il dit à Pierre Gautret, qui lui avait ouvert les portes, « Ne rentrerai certainement pas à déjeuner, et je téléphonerai si je dîne ce soir. » Il mit sa voiture en marche, gagna l'avenue des Ternes, conduisant aussi bien et même mieux que certains professionnels, et 20 minutes après, il stoppait devant la maison de Madame de Préfailles, qui le reçut aussitôt. En voyant apparaître le détective, elle dit « Oh, vous avez bien fait de me prévenir, car je ne vous aurais jamais reconnu. » Allant droit au but, suivant son habitude, Chantecoq demandait à son interlocutrice Madame votre mère est-elle au courant de mon intervention? Oui, monsieur Chantecoq, j'avoue que je n'ai pas eu le courage de lui dissimuler les grandes espérances que vous avez mises en moi et que j'ai mises en vous. Des espérances que je viens confirmer, se hâta de déclarer le roi des détectives. J'ajouterai même qu'elles ne tarderont pas à se réaliser si, je vous le répète, vous suivez aveuglément mes directives. Mais je suis prête à tout, affirma la jeune femme avec un accent de volonté farouche. Eh bien, chère madame, déclarait Chantecoq, je vais vous demander de bien vouloir, pendant quelques jours seulement, peut-être aux 48 heures, de passer pour morte. Morte? Oui, soyez tranquille, il ne vous arrivera rien de fâcheux, loin de là. Si vous voulez que je déjoue en ce moment les projets que nourrit contre vous Jack Surette, et si vous voulez surtout que je vous rende la tendresse, l'amour de votre mari, il faut en passer par là. J'ai bien réfléchi, il n'y a pas d'autre moyen que celui-là. D'ailleurs, vous ne courez qu'un risque, celui d'être endormi pendant quelques heures, et de vous réveiller ensuite dans une confortable villa où vous aurez été conduite pendant votre sommeil et près de votre chère maman, qu'il est important de mettre immédiatement dans la confidence, si toutefois vous acceptez de jouer ce rôle de morte vivante. J'y suis prête, monsieur Chantecoq, répliqua la jeune femme, car que le ferais-je pour reconquérir le cœur de mon mari? Et vous m'inspirez une telle confiance que pas un instant je n'hésiterai à vous obéir. Si je ne craignais pas de porter un coup trop rude à ma pauvre maman, dont l'état de santé s'est beaucoup amélioré pendant quelque temps, mais qui n'en est pas moins à la merci d'une émotion trop vive. Oui, je crains que le seul fait de savoir que je me soumets à une pareille expérience ne l'impressionne à un tel point qu'elle me retombe gravement malade. Non, répliquait Chantecoq, vous n'avez pas à redouter une pareille éventualité. Si vous préparez Madame la Marquise de Montgobert, doucement, très doucement, à cette épreuve que je considère indispensable, au châtiment des coupables et à la restauration de votre bonheur. Bien, je vais parler à ma mère. C'est inutile, fit tout à coup une voix tremblante d'émotion. Madame de Montgobert apparut dans le salon où se déroulait cette scène. Poussée par une curiosité que vous ne me pardonnerez, je l'espère, dit-elle à Chantecoq, qui s'inclinait devant elle avec respect, je me suis permis d'écouter la conversation que vous aviez avec ma fille. Je vous sais gré à tous deux des précautions que vous pouvez prendre à mon égard. Elles sont désormais inutiles, et je conseille vivement à ma chère petite Michel de faire tout ce que lui conseille l'homme éminent qui avait voulu prendre en main sa défense. Donc, madame, concluait le détective, enchanté de cette intervention imprévue, vous ne voyez aucun inconvénient au plus au plan que je viens d'exposer à madame de Préfailles.
Aucun, et je suis prête à y jouer le rôle que vous m'y assignerez.
Simplement celui d'une mère éperdue de douleur, car il est indispensable qu'en dehors de vous, madame, de monsieur le président de la Fontenelle, de madame votre fille et de moi, personne ne soupçonne un seul instant notre subterfuge. D'ailleurs, les choses se passeront beaucoup plus simplement que vous ne le pensez. Madame de Préfailles sera censée, dans un moment de désespoir, avoir absorbé une forte dose de poison. Ce poison sera tout simplement un narcotique spécial que j'ai eu souvent l'occasion d'employer au cours de mes expéditions policières et dont les effets sont de telle sorte que je défie le médecin le plus avisé et même le chimiste le plus expert de s'apercevoir que la personne qu'il a absorbée est uniquement en léthargie. Les constatations de l'état civil ayant été faites, pardonnez-moi ces détails macabres, mais il est indispensable que vous les connaissiez pour que vous n'ayez aucune espèce de sujet d'alarme. Donc, lorsque les constatations légales auront été opérées, on procédera aussitôt à la mise en bière en présence de la famille et même de quelques amis, car il est nécessaire de donner à ces faits toute la publicité désirable. Mais n'ayez pas peur, madame de Préfailles, ne restera pas longtemps dans son cercueil. Je serai là pour vous faire sortir au bout de quelques minutes. Et nous remplacerons le corps par une équivalence de poids. Bon, ceci me regarde et je m'arrangerai de façon que vous puissiez toutes deux partir en auto, sans être vues ni reconnues par personne, et vous vous en irez tout tranquillement attendre la suite des événements chez mon gendre, M. Bellegarde, et ma fille, qui seront tous deux enchantés de vous accorder une discrète hospitalité. Je pense que maintenant, voilà tout à fait rassuré. Monsieur Chantecoq, reprenait la marquise de Montgomère, il ne reste qu'à vous remercier de tout ce que vous faites pour ma fille, ainsi que de la délicatesse des procédés à mon égard. Madame, il est tout naturel, quand je suis chargé de la défense d'intérêts aussi sacrés que les vôtres, que je ne néglige rien pour empêcher qu'on y porte atteinte. Et il ajouta, « Ce matin, j'ai une mission très importante à remplir. Je reviendrai aussitôt après pour vous mettre au courant de tout. » Madame de Préfailles demandait avec un sourire un peu mélancolique, « Et quand devrais-je mourir ?»« Oh, probablement cet après-midi, » déclarait le grand policier. « J'ajoute que demain, il est infiniment probable que j'aurai le plaisir de déjeuner avec madame votre mère et vous, chez mes chers enfants, dont je ne veux pas vous faire l'éloge. Vous les apprécierez vous-même. » Chantecoq se retira. Maintenant, il était de plus en plus certain de réussir, puisque madame de Préfailles avait consenti à se soumettre à l'épreuve qu'il jugeait indispensable et que sa mère avait supporté avec très grand courage la perspective de cette tragique comédie qui se préparait. Lorsque Chantecoq arriva à l'hôtel royal, en la livrée de chauffeur, il trouva dans le hall, en train de feuilleter les illustrés, un superbe nègre, vêtu avec une élégance un peu voyante, les doigts bagués de brillants naturellement faux, et le chef crépu coiffé d'un huit reflets impeccable. Il se dirigea vers lui, enleva sa casquette, et avec l'attitude déférente d'un serviteur bien stylé qui s'adresse à son patron, il fit un météore. « Alors ?» Le faux nègre murmura, « La baronne Merloux est encore là-haut. »« Parfait !»
Elle est arrivée dans l'auto de Jacques Sorette, qu'il avait envoyé chercher, et sans aucun doute elle va repartir de la même façon.
Chantecoq reprenait. Eh bien, je n'ai plus qu'à m'installer sur mon siège. Dès que tu verras la baronne redescendre, tu viendras vite me rejoindre et nous la prendrons tous deux en filature.
Compris, patron, répliqua le secrétaire ou pseudo-chauffeur, qui s'en fut rejoindre son auto et s'assit tranquillement devant son volant.
Son attente fut de brève durée. En effet, moins de 5 minutes après, il voyait reparaître Météor, qui, tout en se glissant dans la Talbot et en s'installant sur les coussins arrière, lui disait
« Voilà la baronne, attention, l'auto de Jacques Sorette, c'est cette espèce de chignole américaine qui est là, la deuxième devant vous. »
« La rouge ?»«
Oui, la rouge. »
À peine avait-il échangé ces quelques paroles que la prêteuse à gages sortait de l'hôtel et se dirigeait vers la voiture que Météor venait de signaler à l'attention de son chef. Elle s'y engouffra, l'auto se mit en marche, et Chateaucoq démarra sur ses traces. Pas un seul instant, grâce à son habileté de chauffeur, qui révélait un long entraînement, un sang-froid parfait et un coup d'œil merveilleux, il ne perdit de vue l'auto qui transportait la baronne. Celle-ci s'était fait conduire à son hôtel où elle pénétra en coup de vent. Le chauffeur qui l'avait conduite s'en fut aussitôt. Chantecoq dit à Météor « Aucun doute à avoir. Le rendez-vous a certainement lieu dans cette maison.
Ça serait épatant, scandait le faux nègre, si nous pouvions y assister sans être vus. »
Imperturbable, Chantecoq précisait
Oh, mais c'est ce que nous allons faire.
Oh, ça, par exemple, s'exclamait Météor, je suis curieux de voir comment vous allez vous y prendre.
Eh bien, tu vas être satisfait, répliquait tranquillement le grand détective en descendant de son siège et en prenant pied sur le trottoir.
Et il ajouta, en se retournant vers son secrétaire, suis-moi, et comme toujours, en pareil cas, garde le silence.
Patron, répliquait Météor, si ma bouche était assez grande pour le contenir, je me mettrais, comme on dit, un bœuf sur la langue.
Non, ce n'est pas le moment de plaisanter, répliquait le limier, fermant à clé la portière de sa voiture. Puis, flanqué de son secrétaire, il se dirigea vers l'hôtel et s'en fut sonné à la porte de service.
Cette fois, ce fut la cuisinière qui vint ouvrir.
Le faux chauffeur lui dit
« Je voudrais parler à Madame Germaine. C'est pour une affaire très urgente. »
La cuisinière regarda tour à tour le mécanicien dont la livrée ultra correcte et même élégante parut produire sur elle une vive impression, et ce nègre élégant et ciré depuis le bout de ses bottines jusqu'au sommet de son haute forme. Pour achever de vaincre ses hésitations, Chantecoq, toujours grand et généreux, lui glissa un billet de 10 francs dans la main et lui dit « Veuillez aller prévenir Mademoiselle Germaine que M. Coco désire lui parler. »«
J'y vais !» fit le cordon bleu qui disparut.
3 minutes après, elle revenait avec la charmante mémène qui, à la vue du chauffeur et du nègre, ne put réprimer un geste d'étonnement. Mais Chateaucoq, s'approchant d'elle, lui murmura à l'oreille «
C'est moi, Coco. Il faut absolument que vous me rendiez le service de m'introduire dans cette maison. »
« Alors ?» s'exclama la jeune femme de chambre. « Vous êtes donc de la police ?»«
Non, je vous expliquerai tout cela lundi. En attendant, il y a 1 000 francs pour vous si vous me faites pénétrer. » Sans que la bonne mère loue, sans doute, dans une pièce où je pourrais entendre et au besoin voir ce qui se passe dans son salon.
Germaine réfléchit un instant. La cuisinière s'était éloignée, pressée de regagner ses fourneaux.
Elle avait cependant
certainement rien saisi des propos qui venaient d'être échangés. « Oui, décidez-vous, ma petite, » pressait Shandcock. Et comme il avait hâte d'en finir, il ajouta « Allez, ce sera 2000 si vous acceptez. » Oh, cette fois, les derniers scrupules de la camériste s'envolèrent, et elle dit à Shandcock « Est-ce que le nègre en est, lui aussi ?»«
Oui, parfaitement. »«
Eh bien, messieurs, venez avec moi. »
Germaine fit passer Shandcock et son secrétaire par un couloir qui aboutissait à un office. De l'office, elle les fit passer dans la salle à manger, et leur montrant une tenture qui dissimulait une large baie donnant directement dans le salon, elle leur dit « Placez-vous là, je vais légèrement entrouvrir la porte et il vous sera facile d'entendre. Quant à voir, c'est impossible, car il faudrait écarter le rideau et alors la baronne s'apercevrait que vous êtes là et tout serait perdu.
« Voici les 2000 francs promis, » déclarait Shandcock en tirant les billets de son portefeuille et en les remettant à Mamen, qui les dissimula dans son corsage et elle se retira discrètement. Shandcock et Météore, l'oreille tendue, attendaient les événements avec impatience. Ils n'eurent pas à languir. Il y avait à peine 3 minutes qu'ils occupaient leur poste d'observation, et le sonnerie retentissait dans l'antichambre, suivi d'un bruit de porte qu'on ouvre et qu'on referme. Puis ce furent des pas dans l'escalier, car le salon de réception se trouvait au-dessous du premier étage. Ensuite, d'autres pas dans le salon, un nouveau bruit de porte, un assez bref silence, et enfin une voix de femme disant « Espérons que nous allons palper notre bonne galette. Sans ça, moi, je fais du tapage. » Et une voix d'homme répondait avec un accent russe prononcé « Je crois qu'il n'y a rien à craindre. » Shandcock adressa un clignement d'œil significatif à son secrétaire. Maintenant, il en était sûr. Le prince russe et la poule Juliette, ainsi que la baleine Mémen, était tombé dans le trébuchet. Un instant après, une autre voix de femme s'éleva. C'était la baronne Merloux qui venait d'apparaître et saluait les visiteurs de ces mots. « Bonjour, mes chers amis. Oh, c'est gentil d'être exact. Ainsi que je voulais téléphoner ce matin, dès la première heure, j'ai les chèques en question. » Et je vais avoir le plaisir de vous les remettre. » À peine avait-elle prononcé ces mots que Shandcock, écartant brusquement la tenture, poussait la porte vitrée et un pistolet automatique au poing, se précipitait dans le salon, suivi par Météore, qui avait lui aussi sorti son revolver. Les deux femmes demeurèrent littéralement sidérées. Quant aux Russes, il prit immédiatement le seul parti qui lui commandait les circonstances, c'est-à-dire celui de lever les bras en l'air en disant « Camarade, camarade !»« Maintenant, » dit Shandcock en s'adressant à la baronne Merloux, qui s'affalait sur un fauteuil, morte de peur et claquant des dents, « vous allez immédiatement me remettre les 2 chèques que vous destiniez à cet homme et à cette femme. »
« Les voici, » bégaya l'entremetteuse en tendant les papiers au détective.
Et Juliette s'élançait en criant
« Voleur, tu ne les auras pas, tu ne les auras pas !»
Elle voulut les arracher à la baronne avant que Shandcock ait eu le temps de s'en emparer. Mais Météore braquait son revolver vers elle en disant « Camarade, vous aussi, la belle poule !» Où ça va se gâter ? » Convaincue qu'elle avait affaire à des bandits professionnels, la môme aux yeux bleus s'arrêta, et d'un geste d'escamoteur, Shandcock saisit les 2 chèques qu'il fit disparaître dans la poche de son pantalon.
« Bandit, bandit !» grinçait Juliette,
et jetant un regard plein de mépris vers Dimitri, qui continuait à lever les bras au ciel
comme s'il suppliait le dieu de la foudre de ne pas diriger ses traits sur sa tête, elle s'écria:
Mais toi, lâche, tu nous défendras donc pas? Ah, mais ça, tu n'as donc pas une arme sur toi?
Le russe répliquait, avec l'accent résigné d'un fataliste convaincu:
Je ne prévoyais pas que je serais attaqué par des voleurs.
Chantecoq, comprenant que le moment était venu de jouer le tout pour le tout, répliquait:
Je ne suis pas un voleur, ni monsieur non plus.
Mais je suis Chantecoq, et voici mon secrétaire.
Chantecoq, le roi des détectives? S'exclamait la môme aux yeux bleus.
Oui, madame, et maintenant à nous deux. Vous avez accepté de vous faire passer pour la comtesse de Préfailles. Mais vous avez fait mieux encore. Vous n'avez pas rougi, vous, sa demi-sœur, de jouer pour une somme d'argent importante, il est vrai, un rôle infamant dans une comédie honteuse qu'il avait organisée sur la demande de l'Américain John Sorette, cette baronne Merloup, qui se nomme en réalité Jeanne Mournier, qui a été condamnée à 10 ans de réclusion pour faux en écriture privée. Oui, vous allez me répondre que vous avez des circonstances atténuantes et que vous avez été très malheureuse. Mais à qui la faute? À cette femme dont vous avez voulu briser le bonheur, que vous avez froidement cherché à déshonorer. Elle n'est pour rien dans votre infortune. Si vous êtes tombé aussi bas, ne vous en prenez qu'à vous-même, c'est-à-dire à votre paresse, à votre horreur du travail et de tout effort, qui en oblige une femme lorsqu'elle veut arriver par soi-même et ne devoir qu'à son labeur le pain auquel elle a droit et le bien-être auquel elle aspire. Vous vous êtes conduite comme une gueuse, et vous mériteriez qu'immédiatement j'envoie mon secrétaire au poste de police le plus rapproché pour vous faire coffrer, ainsi que cette vieille proxénète et ce noble décavé qui en est réduit à de si bas expédients pour satisfaire ses vices. Je consens à différer cette demande, mais à une condition, c'est que vous allez immédiatement me signer une déclaration que je vais vous dicter et dans laquelle vous reconnaîtrez exact tous les faits que je viens de vous reprocher.
Oh, jamais je ne ferai cela, s'écria la môme aux yeux bleus, pâle de rage.
Ne me poussez pas des extrémités que je voudrais éviter, s'écria Chantecoq.
Alors, vous voulez me tuer peut-être, ricanait la fille déchue. Allons donc, je ne vous crois pas. Vous n'oserez pas, ça pourrait vous coûter trop cher.
« Vous croyez cela ?» scandait le limier avec un sourire ironique, et dirigeant le canon de son arme à la hauteur du visage de Juliette, il appuya légèrement sur la détente, et avant que la jeune femme eût eu le temps de se rejeter en arrière et sans que la moindre détonation se fît entendre, elle s'écroulait sur le sol. Tandis que Madame Merloup s'évanouissait de terreur, le russe, d'un bond, voulait se précipiter vers la porte. Le revolver de Chantecoq l'arrêta, et il roula inanimé sur le parquet.
« Ah ! » fit Chantecoq en regardant ses victimes. « J'ai bien fait d'emporter avec moi mon pistolet somnifère, dont la préfecture de police s'obstine à ne pas vouloir munir ses agents. Tandis qu'en Amérique, il y a longtemps que les détectives en font usage.
En attendant, conseillait Météor, je crois pas trop que vous ferez bien d'en flanquer un bon coup à la vieille, parce qu'elle commence à gigoter et elle va revenir à elle.
Tu as raison, dit Chantecoq. Il vaut mieux qu'elles se révèlent tous les trois en même temps, c'est-à-dire dans 24 heures.
Et il déchargea son arme silencieuse sous le nez de la prêteuse à gages, qui fit entendre un éternuement et retomba sur son fauteuil. Météor demandait: Mais en attendant qu'ils reviennent à eux, qu'est-ce que nous allons en faire?
Oh, c'est bien simple, tu vas voir. Chantecoq, qui n'avait jamais été plus maître de lui, appuya sur le bouton d'une sonnerie électrique. Presque aussitôt, Germaine apparaissait, et en voyant les trois corps étendus et qui ne donnaient plus signe de vie, elle poussa un cri d'angoisse qui s'écrangla dans sa gorge. Immédiatement, Chantecoq lui disait « Rassurez-vous, ma petite, il n'y a aucun mort dans la maison. Ils se portent tous les trois à merveille. Mais grâce à vous, je viens d'immobiliser trois misérables, comme j'en ai rarement rencontré au cours de mon existence. Je n'ai pas besoin de vous dire que vous m'avez rendu un fier service et que je vais doubler la prime que je vous ai déjà versée. »
« Ah, ça, monsieur Coco !» s'exclamait la femme de chambre. « Vous êtes donc plein aux as ?»«
Non, ma petite, » répliquait le limier en souriant. « Mais j'estime que la vertu doit toujours être récompensée. »
Il tendit deux autres billets qui reprirent le même chemin que les deux premiers. Germaine se dit « Je comprends rien à ce qui m'arrive. En tout cas, une chose dont je suis sûre, c'est que Coco vient déjà de casquer quatre billets et que j'ai pas encore accordé un baiser d'amour.
Maintenant, reprenait Chantecoq, que vous voilà remise de vos émotions, vous allez descendre à la cuisine et sous un prétexte que vous saurez très bien trouver, vous empêcherez les autres domestiques de monter jusqu'ici.
C'est entendu, monsieur Coco. La camériste s'en fut, se demandant si elle n'était pas le jouet d'une hallucination ou d'un rêve. Apercevant un appareil téléphonique sur une table, Chantecoq s'en empara tout en disant «
Vous n'avez aucune espèce de ménagement à garder envers ce trio de crapules, pas plus qu'envers ce Jacques Sorette, qui vaut encore moins qu'eux. »
Et il demanda aussitôt le numéro du directeur de la police judiciaire, auquel il dit simplement
« Mon cher confrère, je viens de mettre la main sur trois bandits d'envergure que j'ai endormis dans un hôtel qui se trouve au 83 rue Fortuny. Vous pouvez donner l'ordre au commissaire du quartier de venir les cueillir. Ils sont à sa disposition. »
Raccrochant l'appareil, il dit à Météore
« Toi, tu vas rester ici jusqu'à l'arrivée de la justice, parce que moi j'ai autre chose à faire. Tu déjeuneras quand tu pourras, moi aussi. Dès que nos trois oiseaux auront été mis en cage, tu te retourneras, tu reviendras à Mulversy, et tu m'y attendras, à moins que je ne te fasse savoir de venir me rejoindre ailleurs. »
Et sous quelle tenue?
Sans hésiter, Chantecoq répliquait aussitôt « En tenue numéro 19. »
« Un mot, patron, vous permettez ?»«
Parle, si toutefois cela en vaut la peine. »«
Que devrais-je raconter au commissaire qui va venir arrêter et emporter la baronne de Merloux et ses deux complices ?»«
Mais la vérité, je m'étonne même, Météore, que tu m'aies posé une pareille question, car tu dois me connaître assez pour savoir que, bien que vivant en marge de la police officielle, j'ai pour elle un profond respect, et pour celles qui la font, une sincère admiration et une profonde sympathie.
Le patron, excusez-moi, j'ai gaffé. »
Chantecoq n'entendait déjà plus son secrétaire. Quittant le salon, il s'élança au dehors, regagna sa voiture et partit à toute allure dans la direction de l'avenue de Verzy. Là, il se démaquilla, troqua sa tenue de chauffeur contre un complet d'une sobre élégance, et redevenu Chantecoq, il repartit dans sa Talbot pour la rue du Bac. Immédiatement introduit en présence de la marquise de Montrobert et de Michel de Préfailles, il leur dit « Je suis sûr de mon affaire. Il ne reste plus qu'à accomplir le geste que je vous ai demandé, madame la comtesse. »
C'est-à-dire de faire la morte.
Parfaitement, oui.
Maintenant, madame la marquise, je vais vous demander de vous retirer dans votre chambre et en dehors du président de Fontenelle, auquel j'ai téléphoné tout à l'heure, ce qui s'est passé et allait se produire, de ne recevoir absolument personne jusqu'à ce soir 11 heures, et même de ne pas sortir sous aucun prétexte de votre appartement. Je vous répète que vous pouvez être absolument tranquille. Je ne vous cacherai pas que le bonheur de votre fille dépend en grande partie de la confiance que vous voudrez bien me témoigner et de la sérénité avec laquelle vous allez supporter cette dernière et brève épreuve. Et pour achever de vous rassurer, je vous dirai simplement que désormais, madame votre fille et vous n'avez plus rien à craindre ni de la baronne Merloux, ni de Jacques Sorette, ni de personne. Il ne s'agit plus maintenant que de ramener monsieur le préfet à sa femme. Et auparavant, il est indispensable qu'il subisse à son tour une épreuve, grâce à laquelle son cœur à nouveau battra d'amour pour celle qu'il a si aveuglément condamnée. Monsieur Chantecoq, déclarait la marquise de Bourgogère, je me soumets entièrement à votre désir. Comme toujours, vous devez avoir raison. Je me retire chez moi, mais vous me permettrez bien auparavant d'embrasser ma fille et même de lui dire à demain. Madame de Montgobert et Michel s'étreignirent. Madame de Montgobert eut le courage de refouler deux grosses larmes qui étaient apparues sur le bord de ses yeux, et elle se retira, docile et pleine d'espérance. Lorsque Chantecoq se trouva avec la comtesse, il lui dit « Je vous demanderai tout d'abord, madame, de bien vouloir écrire les quelques mots que je vais vous dicter. » Michel alla s'asseoir devant un petit bonheur du jour, sur lequel il y avait un bloc de papier à lettres, et elle prit un stylo avec lequel elle traça ces mots que prononçait le limier. « Désespérée d'être accusée par mon mari d'une trahison dont je suis innocente, je préfère ne pas survivre à une pareille douleur. Je demande pardon à ma pauvre mère du chagrin que je vais lui causer, mais je suis à bout de force et je m'en vais partir pour toujours. » Comtesse Michel de Préfailles. Chantecoq tira de sa poche un flacon de chloroforme qui ne contenait plus que quelques gouttes de ce liquide. Il le déboucha et le plaça sur une tablette près d'un canapé. « Je prépare ma mise en scène, » dit-il à Michel. Celle-ci reprit. « Dois-je placer cette lettre sous enveloppe ?»« Non, 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 laissez-la. Ainsi, oui, comme cela, elle est en évidence. Cela me suffit. » Et s'approchant de la jeune femme, il ajouta « Bien, je vais vous demander d'avaler ce simple granule que voici. » Et il présenta à la comtesse une bonbonnière qui contenait plusieurs petits granules de couleur jaunâtre et de très petites dimensions. « Oh, surtout ne les croquez pas !» recommandait le roi des détectives. « Car elle a très mauvais goût. Donc avalez-la simplement, sans hésiter. Vous ressentirez une grande impression de bien-être immédiat. » Une douce torpeur, et vous n'aurez qu'à vous laisser glisser sur ce canapé. Vous aurez l'impression que vous vous endormez paisiblement. Ce médicament qu'un de mes amis, savant de grande valeur, a inventé et employé déjà avec succès pour des opérations de longue durée, produit exactement les mêmes effets physiologiques que le laudanum, sans toutefois qu'il soit le moindre mouvement. Manque toxique. Vous n'avez pas peur, surtout. Oh, pas du tout, monsieur Chantecoq. Et la jeune femme saisit le granulé et le porta à sa bouche. Quelques secondes après, elle chancelait. Chantecoq l'aida à s'étendre sur le canapé. En moins d'une minute, elle parut morte. Chantecoq la regarda, se pencha vers elle. Il écouta son cœur qui ne battait plus, prit sa main, constata qu'elle commençait déjà à se raidir. Alors, feignant un vif affolement,
Il se précipita dans le couloir en appelant « Venez, venez vite, Madame de Préfailles vient de s'évanouir !»
Chapitre 13. La morte vivante. Le même jour, vers 4 heures de l'après-midi, Chantecoq se rendit à l'hôtel royal, monta directement à l'étage où se trouvait l'appartement de Sir Jacques Sorret, qu'il avait vu quelques instants auparavant sortir seul en auto, et frappa résolument à la porte. Une voix lui répondit « Entrez !» Le détective pénétra dans l'antichambre et aperçut dans l'encadrement de la porte d'un petit salon Henri de Préfailles, toujours camouflé et qui le regardait avec un étonnement mêlé d'une certaine crainte. « Qui êtes-vous, monsieur ? » demanda-t-il d'un ton hautain. « Chantecoq, détective !» répliqua le limier avec autorité. Monsieur de Préfailles esquissa un mouvement de retraite. Le célèbre policier, qui poliment avait enlevé son chapeau, répondait « Vous n'avez rien à redouter de moi, monsieur. Bien au contraire, je suis porteur d'une nouvelle qui va certainement vous causer une grande joie. Je vous apporte la preuve de l'innocence de Madame de Préfailles. » De plus en plus troublé, Henri s'écriait « L'innocence de Madame de Préfailles ? Mais monsieur, je ne comprends pas. Bon, inutile de prendre cette attitude, déclarait Chantecoq. Je suis au courant de toute cette affaire. Mais de quel droit vous en êtes-vous mêlé ? De celui que possède tout honnête homme d'en empêcher un autre de commettre une injustice. » Le roi de détective avait prononcé cette phrase avec un tel accent de sincérité loyale que, favorablement impressionné, le mari de Michel lui disait « Eh bien, entrez, monsieur, je suis prêt à vous écouter. » Chantecoq pénétra dans le salon. Monsieur de Préfailles ferma la porte et, déjà séduit par les manières de véritable homme du monde qu'était le visiteur, il lui indiqua un siège et s'installa lui-même en face de lui. Chantecoq reprit. « Bien, voici les faits. Votre ami, monsieur Jack Sorret, était éperdument épris de votre femme. Et sachant combien elle vous aimait, il a voulu la détacher de vous, et pour cela, il a cherché à vous ruiner et à vous faire passer pour un malhonnête homme. Mais que me racontez-vous là ? « La vérité !» déclarait Chantecoq. « Mais je vais vous en donner immédiatement la preuve, en vous faisant le récit détaillé de tout ce qui s'est passé à votre insu depuis un certain temps, en termes précis et mesurés, avec cette force de persuasion et cet accent de sincérité qui le caractérisait. » Chantecoq raconta à son interlocuteur la façon dont il avait déjoué le complot ourdi par Jacques Sorret. Le comte de Préfailles l'écouta avec une attention profonde qui ne tarda pas à se traduire en la plus douloureuse des stupéfactions. Par moments, il s'est échappé une exclamation sourde et indignée. Et lorsque Chantecoq eut terminé, il exprima le sentiment qui s'agitait en lui par ces simples mots prononcés d'une voix tremblante. « Comment Jacques Sorret a-t-il pu se conduire envers moi d'une façon si abominable ? Oh, si ce n'était pas vous, monsieur le Chantecoq, que je connais de réputation, qui m'affirme bien la véracité de ces faits, je crierais tout de suite à l'imposture et au mensonge. Même en ce moment, je me demande si vous n'avez pas été vous-même l'objet d'une tromperie, et si vous ne commettez pas une erreur en accusant d'une pareille turpitude un homme qui, jusqu'à ce jour, avait eu toute ma confiance, toute mon amitié et toute mon estime. » Le roi des détectives allait immédiatement dissiper les derniers doutes qui subsistaient dans l'esprit du mari de Michel. Il tira de sa poche les deux chèques qu'il avait subtilement et subtilisés si adroitement à la baronne Merloux
Il les montra à M. le préfet en disant « Voici la preuve que je vous annonçais au début de notre entretien. Ces deux chèques étaient destinés à rémunérer le russe et sa complice, c'est-à-dire la fille illégitime de M. de Montgobert, la sœur naturelle de Mme la comtesse de Préfailles, qui a vendu sa ressemblance pour vous persuader de la culpabilité de celle qui n'a jamais cessé, au contraire, de vous chérir. » M. de Préfailles demeura un instant accablé par les révélations qu'il venait d'entendre, et sourdement il reprit « Ma femme, vous l'avez vue sans doute ?»« Oui, monsieur, puisque c'est elle qui m'a chargé de vous retrouver afin de pouvoir se disculper devant vous. Et où est-elle ?»« Rue du Bac, près de sa mère. » »« Elle a cessé de mener une existence de dignité admirable. » »« Mais je veux la voir !» s'écria Henri en se levant. « Attendez, reprenait Chantecoq. D'abord, il faut lui éviter une trop grande, violente émotion, car depuis quelques jours, son état de santé, ou plutôt son état mental, n'était pas sans inspirer à son entourage les plus vives inquiétudes. Et puis, la dernière lettre que vous lui aviez écrite, et dans laquelle vous lui déclariez que vous ne vouliez plus la revoir, lui a causé un tel désespoir qu'en ce moment encore, sous le coup de la douleur que vous lui avez causée, elle refuserait certainement de vous recevoir. Mais pourtant, s'écria Henri avec une conviction ardente, malgré le terrible malentendu qui s'était élevé entre nous, je n'ai pas cessé de l'aimer, que dis-je, de l'adorer. Et ce que j'ai souffert pour elle est inimaginable. Vous me croyez, n'est-ce pas, monsieur ? Le visage de M. de Préfailles révélait un tel bouleversement intime que Chantecoq fit aussitôt « Oui, oui, je vous crois. » Et finement, il ajouta « Mais il faut qu'elle vous croie aussi. Permettez-moi, dans votre intérêt, de l'amener peu à peu à la certitude que votre amour n'a subi aucune atteinte. « Monsieur, agissez comme bon vous semblera. Je ne puis vous dire qu'une chose, c'est que si vous me rendez le cœur de ma femme, vous ferez de moi le plus heureux des hommes. Dites-lui bien, surtout, que la machination que l'on avait tourdie contre elle se présentait de telle sorte que tout autre que moi l'eût jugé coupable. Plaidez pour moi les circonstances atténuantes. Elle vous écoutera, monsieur Chantecoq, j'en suis sûr. Et grâce à vous, le terrible cauchemar que je viens de vivre se transformera en la plus douce des réalités. » Chantecoq allait répondre lorsque Jack Thoret apparut. Avant que le détective eût fait un geste pour retenir de Préfailles, celui-ci se lançait sur le milliardaire et le saisissant dans la gorge, il s'écriait « Misérable, je sais tout, et je vais t'étrangler !» Mais le limier, qui était doué d'une force musculaire peu commune, séparait facilement les adversaires, et avec son autorité coutumière, il disait au comte « Veuillez, monsieur, vous retirer dans une pièce voisine. J'ai quelques mots à dire à monsieur Jack Thoret. » « Ah, ça !» s'exclamait l'Américain d'un air furieux. « Qui êtes-vous, donc ?» « La justice, » répondit simplement le roi des détectives. « Le ministre ?» feignait d'ironiser le milliardaire, qui se sentait fort mal à l'aise. « Non, non, un de ses agents, ou plutôt un de ses instruments, qui, ayant découvert l'infamie dont vous étiez rendu coupable envers une femme respectable entre toutes, a juré de vous démasquer, c'est fait. » « Que me racontez-vous là ?» s'écriait Jack Thoret. « Je vous dis que c'est fait. »« Quoi ? Qu'est-ce qui est fait ? Vous ? » ?»« Quant à vos trois complices, la baronne Merloupe, le prince Dimitri et Madame Juliette, dites-la môme aux yeux bleus, ils sont actuellement
sous les verrous, et vous n'allez pas tarder à les rejoindre.
Moi?
Oui, vous.
Mais pour m'arrêter, il faudrait que vous ayez un mandat.
J'ai mieux que cela, monsieur. J'ai deux chèques signés par vous et qui démontrent suffisamment votre culpabilité dans cette affaire pour qu'à la suite d'une bonne plainte au parquet, qui sera portée ce soir même, vous soyez cueilli demain à votre récouvrant par deux agents officiels, ceux-là de la brigade de facture de police. Inutile de chercher à vous enfuir à l'heure qu'il est. Toutes les précautions sont prises, et malgré votre immense fortune et la fausse moustache que vous vous êtes collée sous le nez, je vous mets au défi de glisser entre les mailles du filet qui vous entoure. Vous seriez arrêté avant d'avoir fait 20 pas dans la rue. Et moi-même, j'ai dans ma poche de quoi vous immobiliser, de telle sorte que vous ne vous réveillerez qu'entre les 4 murs d'une prison. Si vous ne me croyez pas, nous allons tout de suite en faire l'épreuve. Chantecoq sortit de sa poche son fameux pistolet somnifère qu'il braqua dans la direction du milliardaire. Celui-ci s'empressa de lever les bras en l'air comme tout Américain qui se voit en danger. Chantecoq lui dit « Oh, ne vous inquiétez pas, je n'ai nullement l'intention de vous tuer, mais simplement la volonté de vous faire tenir tranquille en attendant l'arrivée de la police. « Mais vous n'êtes donc pas la police ?» hurlait Jack Surratt, blême de peur. « La police officielle, non. Mais je suis tout de même Chantecoq, le détective. Et je crois que j'ai travaillé pour un assez grand nombre de vos compatriotes pour que vous n'ignorerez pas mon nom. « Oui, vous connaissez enfin de réputation, » a déclaré le gredin. Je sais que vous êtes un limier fort habile, fort intelligent. Aussi, peut-être allons-nous nous entendre. Oh, si vous cherchez à m'acheter, répliqua Chantecoq, je vous avertis que vous perdez votre temps. Non, telle n'est pas mon intention, affirmait l'Américain. Je veux au contraire réparer le mal que j'ai fait et que je regrette. Pas possible. Non, je ne bluffe pas. Quand un homme comme moi se laisse envahir par l'amour d'une femme, il est capable de tout. Oui, vous l'avez prouvé. Mais quand il se ressaisit et qu'il s'aperçoit des malheurs qu'il a semés sur sa route, il n'a plus qu'un désir, c'est de tout raccommoder. Surtout, soulignait le roi des détectives, lorsqu'il sait qu'il risque un châtiment aussi sévère que celui qu'il a mérité. « Si vous le voulez, admettait le milliardaire, voici ce que je vous propose. J'ai déjà renfloué la banque de l'homme et compagnie, désintéressé ses créanciers et fait arrêter les poursuites contre M. de Brefaille. Eh bien, je suis prêt à verser à celui-ci, en guise de dommages et intérêts, une somme de 10 millions, avec laquelle il pourra s'établir gentleman farmer. » Ce qui voudra beaucoup mieux pour lui que de se lancer dans la finance. J'ajoute que je suis disposé également à écrire à Mme de Préfaille une lettre d'excuse. Oh, c'est inutile, coupait le roi les détectives. Maintenant, allons continuer. Que diriez-vous, Monsieur Chantecoq, si en échange du silence que vous pourrez faire sur toute cette histoire, je versais aux œuvres de bienfaillance que vous me désigneriez vous-même une somme de 20 millions. Ah, ce n'est pas assez, reprit Chantecoq avec froideur. De combien voulez-vous alors? 50 millions. Mais vous les aurez. Eh bien, disait Chantecoq, en principe, nous sommes d'accord. Nous n'avons plus qu'à rédiger un petit contrat en bonne et due forme. Asseyez-vous devant ce bureau, monsieur Chantecoq, et prenez la plume. Le limier s'installa, mais à peine avait-il pris place dans le fauteuil que brusquement il se retournait et sortant son pistolet somnifère de sa poche, il le mettait sous le nez de l'Américain en disant « Crapule,
Est-ce que tu crois que je n'ai pas vu que tu voulais m'assassiner ?
Il pressa sur la détente de son arme, et l'Américain s'écroula sur le tapis, laissant tomber près de lui le Browning qu'il avait subrepticement tiré de sa poche afin de se débarrasser de celui qu'il avait si bien démasqué.
« Cette fois, mon bonhomme, s'écria le policier, ton compte est bon. Tu iras à la boîte comme les autres, et tu l'auras pas volé. »
Chantecoq, en enjambant le corps, voulut passer dans la pièce voisine afin d'y retrouver M. de Préfailles et de le mettre au courant de ce qui venait de se passer. Mais la chambre était vide. Chantecoq eut un étrange sourire et il se dit « Je parie ces 50 millions que j'ai cru faire tomber tout à l'heure, que M. de Préfailles est allé retrouver sa femme. Allons, tout va bien maintenant. Il n'y a plus qu'à attendre que le fantôme du Père Lachaise ait fait son apparition et son œuvre. » Il retourna dans le salon où il avait laissé le milliardaire, étendu à terre dans le même sommeil léthargique que ses complices. Il s'empara du téléphone, demanda le directeur de la police judiciaire, et dès qu'il eut obtenu la communication, il lança ces mots dans l'appareil. « Mon cher ami, je tiens le 4e larron dont je vous avais parlé. Vous pouvez l'envoyer chercher à l'hôtel Royal, appartement 21. Il dort aussi bien que s'il était dans le château de la belle oie dormant. » Chantecoq quitta aussitôt l'hôtel Royal et se rendit rue du Bac. Il avait deviné juste. Au moment où il pénétrait dans la maison, il se heurtait à Henri de Préfailles, qui en sortait, les traits contractés par la douleur. Le mari de Michel balbutia au détective d'une voix étranglée par les sanglots. « Ma femme est morte. Elle s'est suicidée en absorbant un flacon de laudanum. »«
Me dites-vous là ?» disait Chantecoq en simulant une surprise profonde.
Préfailles poursuivait. « J'ai voulu la revoir, mais je me suis heurté à une consigne formelle qu'avait donnée sa mère. Je n'ai pas été reçu. Pourtant, je suis son mari. »«
Calmez-vous, » répliquait Chantecoq.
« Vous ne pouvez rester ici, dans la rue. Prenez place dans ma voiture. Vous m'y attendrez. Je vais aller là-haut voir exactement ce qui s'est passé et je vous donnerai ainsi tous les détails. »
Un quart d'heure s'écoula. Chantecoq revint. Il semblait grave, préoccupé, et tout en prenant le volant, il dit à Henri de Préfailles « Venez jusque chez moi. Je ne veux pas vous laisser seul en un pareil moment. Je vous donnerai alors tous les renseignements nécessaires. » Ils partirent. Durant le trajet, Préfailles questionna le détective, qui lui répondit évasivement.
« Oui, c'est bien ce que vous m'avez dit. La malheureuse, dans un moment de folie, s'est tuée. J'ai eu une entrevue de quelques instants avec sa mère, qui est dans un état lamentable. Il est préférable que vous vous absentiez. Cependant, j'ai obtenu d'elle que ce soir, vers 10 heures, avant la mise en bière, elle vous permettrait de revoir une dernière fois Madame de Préfailles.
« C'est effroyable !» murmurait le comte Henri. « Vous allez rester avec moi jusqu'à ce moment, » décidait Chantecoq. « Car dans l'état où vous êtes, et surtout après les privations que vous avez endurées pendant votre captivité au Maroc, vous pourriez tomber tout à coup très malade, ce qui vous empêcherait d'assister aux obsèques de votre femme. »
« Vous avez raison, » approuvait le comte Henri. Fermant les yeux, il sembla appeler vers lui l'oubli et le néant. Quand il arriva à avenue de Verzy, il n'était plus qu'une loque. Chantecoq dut lui offrir le bras pour le faire entrer dans la maison et le conduire jusqu'à une chambre d'amis. Préfailles se laissa tomber sur un divan.
Il était sur le point de perdre connaissance. Chantecoq sonna et Gautret apparut. Sans lui donner d'autres explications, Chantecoq lui dit « Apporte-moi une tasse de tilleul !» Gautret s'en fut d'exécuter l'ordre de son patron. Et celui-ci dit après faille qui, la tête entre les mains, s'était mise à sangloter. « Oh, excusez-moi un instant, mais je reviens près de vous. » Il s'en fut. Quelques minutes après, il revenait, apportant lui-même la tasse de tilleul qu'il tendit à son hôte en disant « Prenez cette boisson chaude, elle vous fera du bien. » Machinalement, le mari de Michel obéit et avala d'un trait le breuvage que lui donnait le détective. Presque immédiatement, il parut soulagé. Il laissa retomber sa tête sur le divan et peu à peu s'endormit d'un lourd sommeil. Chantecoq s'en fut à la porte, l'entrebâilla et fit signe d'entrer à Météore qui stationnait dans le couloir. « Regarde cet homme, dit-il. Comme il aurait pu nous gêner, je viens de lui faire avaler un bon soporifique qui va le plonger dans un sommeil qui peut durer autant que je le voudrais, sans toutefois compromettre sa santé. Et quand comptez-vous l'éveiller ? Interrogeait Météore. Quand l'heure en aura sonné ? Répliquait mystérieusement le roi des détectives. Lorsqu'Henri de Préfailles rouvrit les yeux, il se trouvait toujours dans la chambre que Chantecoq avait mise à sa disposition. Mais il était couché dans un lit moelleux où il semblait d'ailleurs fort à son aise. Le détective était à son chevet. « Cela va mieux ?» lui demanda ce dernier. « Ah, vous pouvez vous vanter de nous avoir fait peur !» D'une voix encore hésitante, Préfaille répondait « Oh, l'impression que j'ai été mort et que je ressuscite !»« Non !» rectifiait le policier. « Vous avez eu simplement une forte syncope, et le médecin que j'ai envoyé chercher afin de rétablir les mouvements du cœur vous a fait une piqûre qui vous a fait dormir pendant 48 heures. »« 48 heures ? » s'exclamait le comte Henri. Revivant tout à coup la tragédie dans laquelle il se débattait, il ajouta « Alors, les obsèques de ma femme ont eu lieu ?»« Oui, monsieur, » répliqua Chantecoq. « Madame la comtesse de Préfailles repose depuis hier au Père Lachaise, dans le tombeau de sa famille. » Henri se cacha la tête entre les mains. Chantecoq respecta sa méditation douloureuse. Lorsque le mari de Michel laissa apparaître son visage, celui-ci était ruisselant de larmes. « Du courage !» fit Chantecoq. « Écoutez-moi, monsieur, » reprenait Préfaille, « je voudrais me rendre à ce cimetière sur la tombe de ma femme. Non, mais vous avez encore besoin de repos, et cela va vous causer une trop forte émotion. Si, si, je vous en prie. Je me sens assez fort pour me rendre cet après-midi au Père Lachaise. Sans cela, je crois que je tomberai tout à fait malade. Eh bien, soit, acquiesçait Chantecoq. Vers 4 heures du soir, Monsieur de Préfailles était agenouillé devant la tombe dans laquelle il croyait que sa femme était à jamais enfermée. Il priait, non pas Dieu qui la lui avait enlevée, mais celle qu'il avait méconnue, celle dont il se reprochait par sa crédulité coupable d'avoir causé la mort. Des mots incohérents s'échappaient de ses lèvres. « Pardonne-moi, oui, pardonne-moi, de n'avoir pas su, de n'avoir pas compris que tu étais calomnié, que ton amour était plus fort que tout. Mais je ne tarderai pas bientôt à te rejoindre, car le remords me tuera. Pardonne-moi, oui, pardonne-moi, je t'en supplie. Oui, Henri, je te pardonne, » fit soudain une voix harmonieuse qui vibra tout près de lui. Henri tressaillit, se retourna. Un cri lui échappa. Dans une toilette toute blanche,
les yeux pleins de larmes, les mains jointes, comme une sainte qu'on eût dit évadée de ciel, Michel était devant lui.
« Un fantôme ! Un fantôme !» murmura le comte Henri.
« Non, dit la jeune femme, en lui tendant les mains, une vivante.
Qu'il avoue être sûr que tu l'aimais encore avant de revenir vers toi. Relève-toi, mon Henri. Nous nous adorons toujours et nous allons nous aimer encore davantage. Je serai ta compagne, vigilante et dévouée, prête à affronter avec toi toutes les batailles de la vie, batailles que nous gagnerons puisque nous nous aimons. Et lorsqu'on aime, on est toujours le plus fort. »
Henri s'était relevé, et tout en attirant sa femme contre lui, il fit « Mais qui t'a donné l'idée de cette épreuve ?» désignant une silhouette qui se défilait discrètement derrière un arbre. Michel dit « Monsieur Chantecoq !»«
Lui ?» s'exclama Préfaille. « Oui, appuya Michel, et nous pouvons le remercier tous les deux, car c'est bien à lui et à lui seul que nous devons d'avoir reconquis notre bonheur. »
Ils se dirigèrent vers le roi le détective. Celui-ci leur tendit les mains qu'ils serrèrent l'un et l'autre avec effusion. Chantecoq, essuyant une petite larme qui était apparue au bord de ses paupières, dit simplement « Mais soyez heureux, vous le méritez l'un comme l'autre. Et maintenant que les nuages sont dissipés, c'est le soleil qui va illuminer votre existence. » Fin.